va parler budget dans ce journal avec les réformes fiscales du pays, les pertes de l'OPT. On ira faire un tour à la CCISM et chez Tahiti Tourisme. Et puis on embarque bien sûr pour les Jeux, ce sera en fin d'édition. Et ce journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
On part à Taraoï pour commencer.
Et oui, Taraoï, où les élus ont reçu ces derniers jours le projet de budget 2024 de la Polynésie. Un budget primitif en augmentation de 2% par rapport à celui de 2023. On peut noter les 30 milliards de francs de nouveaux crédits en investissement, les 900 millions de francs de dépenses de personnel supplémentaires par rapport à l'année dernière. On peut noter aussi les 3 milliards de francs de rentrées fiscales supplémentaires qui sont prévues à ce budget. Des recettes liées à la bonne santé économique du phénomène, mais aussi à des réformes proposées par le gouvernement Brotherson pour compenser en partie la disparition de la TVA sociale. Son ministre des Finances, Tevaïti Pomaré, avait déjà parlé de la plus importante, la création d'une contribution de solidarité sur le patrimoine immobilier. Tous les biens de plus de 50 millions de francs seront taxés et le gouvernement propose aussi de supprimer plusieurs niches et exonérations dans l'immobilier, mais aussi le tourisme ou encore les transports. On peut notamment citer le cas des véhicules hybrides et électriques qui devraient perdre une bonne partie de leurs avantages fiscaux. L'exécutif estime que ces avantages sont disproportionnés au regard de leur intérêt écologique. Les réductions de taxes devraient donc être échelonnées en fonction de la puissance de ces véhicules verts.
Et on continue dans les gros chiffres du côté de l'OPT.
Et oui, avec ses pertes records enregistrées par l'établissement, en 2021, l'État, il avait perdu 320 millions de francs, un résultat alors jugé préoccupant. Il est devenu beaucoup plus catastrophique. En 2022, plus de 2 milliards de francs de pertes malgré les subventions du pays. C'est du jamais vu. Alors comment la direction explique-t-elle ces mauvais résultats, Caroline Perdri?
Eh bien, par une conjonction de facteurs, le PDG Jean-François Martin pointe d'abord du côté de la branche télécom pour la première fois dans le rouge. La faute, d'après lui, aux offres mobiles agressives de l'année dernière. Une façon de montrer du doigt l'ancien directeur général Donati, Thomas Lefebvre-Ségard, débauché de chez Vodafone en 2021 et remercié un an et demi plus tard. L'échec de ces offres n'explique pas tout. La direction du groupe met aussi en avant la baisse des subventions du pays, le poids des plans de départ du personnel, le lancement de Marara Paiement, sans oublier les dégâts du nouveau système d'information de l'Office qui a occasionné des surcoûts énormes, mais toujours pas chiffrés.
Alors la direction du groupe précise tout de même que l'OPT peut compter sur la solide trésorerie accumulée avant la crise pour se tenir à flot, peut compter aussi sur des nouvelles recettes qui doivent arriver dans les prochaines années. On a parlé de Marara Paiement, il y a aussi côté numérique le contrat avec OneWeb qui a installé ses antennes à la Papeno. Le plan de départ devrait lui aussi participer à réduire les coûts. Avec une question, Caroline, est-ce que tout ça va suffire à redresser la barre?
Difficile à dire, Charlie, mais Jean-François Martin veut y croire. Le PDG sur le départ insiste sur le fait qu'une importante trésorerie a été constituée avant le début des ennuis financiers et que l'OPT a de quoi résister pour l'instant. Le dirigeant a en outre demandé au pays une subvention de 500 millions supplémentaires pour financer le travail d'équipement télécom des zones peu denses. Côté économie, il s'agit de prolonger le plan de redressement du groupe jusqu'en 2028 avec davantage de mesures de rigueur annoncées, de quoi présager de l'ambiance des négociations des nouvelles conventions d'établissement qui doivent être signés avec les syndicats avant la fin janvier.
Et avant ça, l'actualité de l'Office sera chargée. Le prochain conseil d'administration, début décembre, devra valider le budget 2024 et la poursuite du plan de redressement. Quant au gouvernement, il poursuit le processus de sélection du nouveau PDG avec comme objectif d'aboutir avant la fin de l'année.
Ouais, le groupe travaille en parallèle sur un gros projet.
Et oui, celui de son nouveau siège sur l'avenue Prince-Sinoy. On vous en avait parlé, le gouvernement avait retoqué une première version de ce projet jugé démesuré et trop coûteuse. L'Office a donc réduit la voilure. 377 personnes sur site au lieu des 670 qui étaient prévus. 6 milliards de francs au lieu de 13 milliards. Au passage, la maison des communes chère au SPC ne fait plus partie de l'ensemble, même si les Tavanas ne désespèrent pas de racheter une partie du terrain de 7000 m² de Prince-Sinoy. En attendant, la nouvelle mouture du projet de siège de l'OPT a été validée à l'unanimité par les administrateurs. Aucun calendrier de construction n'est pour l'instant sur la table.
Les élections de la CCISM devant la justice hier.
Et oui, la justice administrative. Stéphane Chinloy demandait l'annulation de la publication des résultats du scrutin du 27 juin. Un scrutin qu'il avait perdu au profit de la liste CCISM 2028 de Kelly Hassin-Mouks, qui avait fini par devenir président de la Chambre. C'était fin octobre. Sauf que les élections de juin avaient été marquées par de nombreuses irrégularités reconnues par tous, d'où le recours de l'équipe sortante. Hier au tribunal, le rapporteur public a estimé que ces irrégularités, dont beaucoup ont eu lieu dans des petites îles, n'avaient n'avait pas de quoi renverser le résultat du scrutin. Ça n'est pas l'analyse de maître Renaud Cretli. Écoutez.
Ce qu'a indiqué madame le rapporteur public est vrai. Sur certaines îles, ça n'a pas d'incidence. Ce que j'ai indiqué est également vrai, c'est-à-dire qu'il y a 21 bureaux qui représentent plus de 70% des suffrages qui, eux, posent véritablement problème. Quelle est la sincérité, la crédibilité de ce suffrage du 27 juin ?
Maître Renaud Cretli, avocat de Stéphane Chinloy et de son équipe, qui a aussi dénoncé d'avance un déni de justice si jamais le tribunal jugeait son recours hors délai. Car si l'équipe sortante n'a pas attaqué les résultats plus tôt, c'est tout simplement parce que le gouvernement a lui-même attendu plus de 3 mois avant de les publier. Alors faudra-t-il revoter ou non à la CCISM ? Réponse des juges demain matin.
Et on parle tourisme maintenant.
Et on en parle et vous en parlez à l'occasion d'une grande enquête lancée par Tahiti Tourisme. Jusqu'à la fin décembre, l'organisme va essayer de recueillir l'avis des Polynésiens sur le développement touristique du pays. 21 questions pour parler d'impact économique, culturel et environnemental aussi. Objectif, établir des perspectives d'amélioration du secteur dans le cadre de la stratégie Fariira Manihini 2027. On écoute le directeur général de Tahiti Tourisme, il est au micro de Vaitiere Perer.
Aujourd'hui, on n'a aucun élément fiable pour démontrer précisément quel est le sentiment de la population. Donc c'est tout l'intérêt de cette étude, c'est d'avoir à cet instant T l'impression que la population a sur un développement du tourisme en Polynésie et dans chaque île, puisque ce sondage va également poser la question dans son île propre.
Jean-Marc Mosselin qui précise que le sondage est disponible en ligne et sera aussi mené sur le terrain et dans les îles par des étudiants de l'université. Et pour motiver les participants, Tahiti Tourisme leur propose un tirage au sort avec à la clé un aller-retour vers le Japon. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site radio1.pf.
Un petit mot de télévision.
Avec les derniers chiffres des sondages publiés hier par Médiamétrie et une très bonne surprise pour TNTV, la chaîne du pays surclasse sa rivale Polynésie la Première avec 40,9% de part d'audience contre 35,8% pour l'antenne de Pamatei. Les miettes se répartissent entre France 2, France 5 et France 4 dans cet ordre. A noter tout de même que le nombre de téléspectateurs est en chute libre. 104 000 Polynésiens qui passent devant leur poste chaque jour. C'est 15 000 de moins qu'il y a 2 ans, 3 000 de moins qu'en 2022. Côté radio, au contraire, le nombre d'auditeurs remonte par rapport à l'année dernière et retrouve les niveaux de 2021.
Et puis on finit par ce grand départ.
Et oui, 289 sportifs qui s'envolent pour les îles Salomon. Ça n'est pas une migration, c'est la délégation polynésienne qui a commencé à monter dans l'avion ce matin en direction des Jeux du Pacifique 2023. Les athlètes sont bien accompagnés, coachs, techniciens, soignants, managers et même la ministre des Sports Naïma Temari. Au total et sur les 2 semaines de compétition, la délégation polynésienne rassemblera pas moins de 425 personnes à Honiara. Objectif, faire mieux que les 35 médailles de Apia en 2019. Le comité olympique a fixé un objectif de 55 médailles, ce qui ferait probablement monter le Fénois sur le podium. Un objectif difficile mais pas impossible, c'est ce que précise Louis Provost.
C'est sûr qu'avec la préparation qu'on a pu avoir et donc le soutien financier que l'on n'a pas eu, je sens quand même que les gars, les athlètes ont quand même, et les entraîneurs, les coachs, tout ça, les présidents, ont mis de la hargne à vouloir quand même malgré tout réussir et se battre comme on doit se battre. Si on n'atteint pas les 55 médailles d'or, on ne sera pas très très loin quand même.
Louis Provost, le président du comité olympique de Polynésie, qui part aussi pour ces Jeux. Premières épreuves dès ce jeudi, avant même la cérémonie d'ouverture de samedi, avec au programme du tennis, du foot et du volley. Les premiers podiums, ce sera dimanche en natation. Et on vous fera bien sûr vivre tous ces Jeux du Pacifique avec notre envoyé spécial Valdemar Delage, qui est en ce moment même dans l'avion avec les athlètes. Voilà, restez bien sur nos ondes. Donc, pour notre part, on se retrouve à 7h30. Ce sera pour la revue de presse.
Ah oui, Charlie, merci beaucoup.